Salut à tous, bienvenue sur lebigusa.com, vous écoutez le podcast numéro 92, on est toujours à Las Vegas, vous êtes toujours en confinement. J'ai un invité aujourd'hui, j'en ai jamais eu d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, un coureur automobile, Alex Préma.
Waouh, salut Stéphane.
J'ai jamais eu d'invité de pilote automobile.
Je suis le premier.
C'est le premier. j'y connais rien en auto. Je suis désolé.
Une auto, c'est simple, c'est 4 roues, un volant.
Merci d'avoir été l'invité de ce podcast 92. En revanche, tu t'y connais en moto, toi, un peu ?
Pas trop, c'est marrant parce que quand j'y repense, quand j'étais jeune, surtout avec mes cousins, on avait un terrain où on faisait énormément de sport mécanique. On faisait du karting, on faisait de la moto, on faisait du quad, on faisait de l'ATC, je ne sais pas si tu te rappelles.
Ah oui, l'ATC, putain, c'était dangereux.
Hein. Ouais, hyper dangereux. Donc j'ai des notions de moto. Malheureusement, mon père n'a jamais voulu que j'achète un scooter quand j'étais adolescent et je suis parti dans le karting et ensuite course automobile.
Bon voilà, on va revenir sur tout ça parce que les gens ne te connaissent pas bien ou il y en a certainement qui te connaissent, qui sont... d'ailleurs, en parlant de gens qui te connaissent, on le dit tout de suite ou pas ?
Alors, faut attendre un petit peu.
Faut
attendre la surprise.
Alors, t'es à Vegas, on va revenir au début. Alors, Alex Préma, c'est qui, c'est quoi ? T'as commencé en France, dis-nous un peu ton background.
Alors Alexandre Préma, il est pilote automobile français, je dirais une légende de Bathurst parce que j'ai gagné une course très prestigieuse l'année dernière qui est très grosse. À côté de ça, je porte une autre casquette où je suis patron d'écurie de course, où j'ai monté un team à Las Vegas depuis 2 ans. Mon parcours sportif, j'ai commencé donc en karting à l'âge de 10 ans où j'ai fait différents types de catégories, donc du karting où j'ai été champion de France, vice-champion de France, j'ai gagné un championnat d'Europe, ou vice-champion d'Europe je crois, j'ai gagné une coupe du monde aussi en 125, donc quand même un gros palmarès en karting. Ensuite forcément tous les pilotes qui veulent accéder à la Formule 1, c'est un petit peu le rêve de tous les jeunes pilotes de kart. Je suis passé en Formule Campus où j'ai été vice-champion de France, où là j'ai été sponsorisé par la filière Elf, qui est un gros groupe pétrolier où aujourd'hui et maintenant qui est repassé à Total, mais beaucoup plus de lubrifiants aujourd'hui qui est au nom de Elf, où j'ai fait de la Formule Renault, champion de France Formule Renault. Et en fin de compte, on passe suivant toutes les étapes. Alors, je ne sais pas, tu veux que je donne un petit peu tout
résumé ? Moi, je suis sûr que ça va intéresser des gens. Moi, je suis un peu perdu là déjà. Parce que moi, quand tu m'as dit carte, tu m'as perdu après.
j'ai pu voir ça dans tes yeux. mais qu'est-ce qu'il me raconte là ? Je ne comprends plus rien là.
Non, juste pour revenir aux cartes 2 secondes, parce que moi, le kart, c'est ludique pour moi. Mais encore une fois, je connais un peu quand même. Le kart, c'est le passage obligé. T'es obligé de passer. Chez Schumacher, enfin, tous ces grands sont passés par le kart. Senna aussi ?
Oui, tout à fait.
Ils sont tous passés par le kart ?
Oui, tous passés par là. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Charles Leclerc. Je vous parle des nouveaux pilotes de la Formule 1 aujourd'hui, ou comme ça, les jeunes qui peuvent écouter et se disent ah, ok, d'accord. Mais c'est vrai que tous les pilotes comme Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Damon Hill, ce sont 2 pilotes qui ne sont pas trop passés vers le kart.
Alain Prost, c'est ma génération.
Prost, oui, Alain Prost, forcément, du karting. Ouais. Tous les grands champions, Nelsino Piquet, sont passés par le karting et ont été soit champions de leur nation ou champions du monde ou quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que ça, je dirais que le karting, tout le monde démarre par là. Pourquoi ? Parce que c'est les notions de la vitesse, de la peur. Et de l'excitation quand on roule en groupe. Et au final, c'est exactement pareil que la Formule 1.
Mmh. Tu ne peux pas ne pas passer du coup sur le karting. Il faut avoir cet apprentissage, j'imagine.
Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, dans les années 2020, avec les simulateurs virtuels, c'est vrai qu'il y a des pilotes maintenant qui ne sont pas obligés de passer via le karting. Alors aujourd'hui, on n'en a pas encore vu, mais c'est vrai qu'il y avait, comment il s'appelle, Nissan et PlayStation avaient fait un jeu concours il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années de ça, où ils avaient sorti quand même des pilotes virtuels qui les ont passés en professionnels. Et aujourd'hui, ces pilotes sont toujours professionnels,
wow,
sans avoir beaucoup d'expérience en karting.
D'accord. On parlait tout à l'heure du monde virtuel. C'est quand même assez intéressant. J'ai l'impression que tout le monde s'y met en ce moment.
Ouais, exact. Même moi.
Donc le kart, donc, je te coupe plus. Le kart, après, qu'est-ce qui se passe? Donc toutes les formules dont tu m'as parlé.
Donc après, forcément, donc, après le karting, y a comment dire, une pyramide pour aller en Formule 1. Donc la pyramide, elle est simple.
Est-ce que l'objectif à ce moment-là, c'est la Formule 1?
Exactement. Tous les pilotes qui sortent du karting veulent aller en Formule 1, obligatoirement, ou être pilote professionnel. Je dirais que entre 2005 et 2020, vraiment tout le système de la pyramide a un petit peu changé, parce que je dirais qu'en 2000-2005, tous les pilotes qui sortaient du karting voulaient aller en Formule 1. Donc la pyramide, elle est simple. C'est, on fait de la monoplace. Donc on commence par de la Formule Renault, Formule 3. Aujourd'hui, elle s'appelle Formule 2, mais avant, ça s'appelait Formule 3000 GP2. Et ensuite, la Formule 1. Donc ça, c'était la hiérarchie qu'on devait suivre pour aller en Formule 1. Aujourd'hui, en 2020, il y a beaucoup de plus en plus de pilotes qui regardent plus trop la Formule 1, parce que la Formule 1, c'est très très dur d'y accéder. Pourquoi ? Parce qu'il faut énormément d'argent. Même si on a le talent, c'est pas parce qu'on a le talent qu'on peut aller en Formule 1. Aujourd'hui, il y a des baquets qui se vendent à 20, 30, 40, 50 millions pour rouler en Formule 1, comme un pilote comme Latifi ou comme Stroll. Donc forcément, on peut pas rivaliser.
Tu m'as perdu là.
Ouais, j'ai vu ça encore.
Autant d'argent pour rouler en Formule 1?
Ouais, tout à fait.
Pour faire ça veut dire que je suis talentueux de la mort, j'ai tout gagné, machin. Si j'ai pas l'argent que tu viens de dire, je peux pas rouler?
Faut avoir les bonnes connexions. Wow. Si tu as les bonnes connexions, ça peut le faire, mais c'est quand même très difficile.
Mais tu peux pas, t'es pas...
Non, bah, les sponsors, tu essayes de créer des groupes autour de toi pour trouver des sponsors qui veulent sponsoriser la Formule 1 ou qui veulent...
Qui croient en toi?
Qui croient en toi et qui te veulent ambassadeur de la marque.
D'accord. Et donc tu es commercial en même temps que d'être...
C'est exactement ça. Aujourd'hui, pilote, c'est pas vraiment que piloter. C'est vrai qu'il y a un côté... plus commercial qui est derrière tout ça.
Ça a changé, ça, alors?
Ouais, ça a énormément changé. D'accord. À l'époque d'Alain Prost, Nelsino Piquet, Ayrton Senna, Nigel Mansell, ça l'était, mais quand même beaucoup moins que ce que ça l'est aujourd'hui.
C'est frustrant, ça, non?
Ça peut être frustrant pour des pilotes, parce que c'est dur d'y arriver. Donc, je connais hein, pas mal de pilotes qui sont arrivés en F1, qui ne sont pas restés longtemps en F1 ou même aux portes de la F1 et qui n'ont pas pu rouler en F1. Pourtant, ils avaient le talent. Mais après, je le disais, il y a d'autres catégories comme par exemple les 24 heures du Mans, du DTM, du sport car ou
de l'endurance. Tu peux gagner ta vie quand même. Tu n'es pas obligé d'être...
pas obligé d'être en Formule 1 pour gagner ta vie.
Enfin, la Formule 1, c'est le Saint Graal. Et après, tu peux travailler entre les deux quand même.
Exactement. D'accord.
Donc, t'en es où toi avec le Saint Graal?
Ah, bah le Saint Graal. Donc, en fin de compte, quand je reviens sur les catégories.
J'arrête de te couper.
Donc, on revient un petit peu sur les formules de promotion avant d'arriver en Formule 1. Donc, on a la Formule Renault. Donc, j'ai fait de la Formule Renault, j'ai été champion de France. Ensuite, je suis passé en Formule 3 où j'ai été assisté et sponsorisé par Mercedes Benz. Donc, j'étais pilote officiel Mercedes-Benz. Avec des Robert Kubica qui a gagné des courses de Formule 1, avec Lewis Hamilton, avec Jimmy Green, avec des Bruno Spengler, des pilotes peut-être que vous ne connaissez pas ou que tu ne connais pas, mais ce sont tous des grands pilotes de renom qui ont gagné des grosses courses comme du DTM, les 24 Heures du Mans ou d'autres grosses courses. Donc là-dessus, en Formule 3, j'ai fini première année. À chaque fois, dans chaque transition de chaque catégorie, c'est un an pour apprendre, un an pour gagner.
D'accord.
Okay. Donc, ma deuxième année en Formule 3, comme la deuxième année en Formule Renault.
C'est un peu ça en moto aussi.
C'est un peu ça aussi. Hein.
Ouais, en motocross, c'est ça.
Ouais, mais j'imagine que c'est bien pour apprendre les circuits, pour apprendre la catégorie, apprendre la voiture, apprendre le championnat, donc tout ça.
Puis t'arrives, tout est nouveau.
Bien
donc,
sûr, tout est nouveau. Donc après, il faut vraiment être très mature pour tout comprendre et se lancer dedans. Donc Formule 3, qu'est-ce que je fais en Formule 3? Deuxième année, je finis vice-champion d'Europe. Je gagne les Masters de Zandvoort, qui est plus ou moins une mini-coupe du monde. Et dans la même année, je gagne Macao, qui est le grand prix final. C'est une coupe du monde, pareil. Donc, je gagne ces deux grands prix dans la même année. Il n'y a que 3 ou 4 pilotes qui ont réussi à gagner ces courses-là. Et à ce moment-là, c'était déclencheur où j'ai quand même gagné devant Nico Rosberg, champion du monde de F1, Lewis Hamilton, 6 fois champion du monde de F1, Lucas Di Grassi, Nelsino Piquet, des champions de Formule 1, plus d'autres pilotes, honnêtement. On était, c'était l'année...
C'était quoi? C'était quelle année?
Ça, c'était l'année 2004.
2004, ouais, ok.
Donc là, il y avait vraiment quand même des gros noms. Et quand on regarde tous les noms, tous les pilotes sont des gros stars dans le sport automobile. Donc suite à ça, après Formule 3, quand on a un palmarès comme ça, quand on gagne autant de courses, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir dans la Formule 3000. Formule 3000, c'était l'antichambre de la F1. C'était la catégorie avant d'aller en Formule 1, où j'ai fait de la Formule... alors, quand je dis Formule 3000, GP2, Formule 2, c'est le même nom, c'est juste qu'ils ont changé les
D'accord.
noms suivant les années.
Okay.
Mais donc, je fais ce championnat donc avec Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Nelson Piquet. Je parle des plus gros noms de pilotes et d'anciens pilotes de fils de pilotes de Formule 1, où je finis quatrième la première année et troisième la deuxième année. Donc, très beau résultat.
Qui gagne à ce moment-là?
Qui gagne? Alors, première année 2005, c'est Nico Rosberg.
D'accord.
Et 2006, c'est Lewis Hamilton.
D'accord.
Donc...
Il n'y a pas d'erreur quoi. Enfin, sur le papier, c'est des gens qu'on verra plus tard.
Exactement,
donc, ils ne sont pas là par hasard.
Tout à fait. Okay. Alors en 2005-2006, comme je le disais par rapport à 2020, c'était une époque un petit peu différente, 15 ans en arrière, où en Formule 1, ils étaient quand même plutôt. Comment dire? Ils essayaient de préserver les pilotes. À rester longtemps dans le championnat. Par exemple, comme des Olivier Panis, comme des Jean Alési, comme des... Bon, Michael Schumacher, forcément, il est resté longtemps parce qu'il gagnait les championnats, mais Rubens Barrichello, Jenson Button. Donc, c'était des pilotes qui étaient très, très durs à retirer du système. Mm-hmm. Et tous les jeunes pilotes ne pouvaient pas y accéder.
D'accord.
Comme ils le peuvent aujourd'hui. Parce qu'il y avait des sponsors, il y avait beaucoup de côté médiatique via les pilotes, et c'était très très dur de pouvoir rentrer dans le système.
Intéressant.
Et maintenant, je t'ai perdu encore.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, je suis là pour apprendre, et je suis là aussi pour informer les gens qu'il y a des choses différentes que le motocross. Et je pense que 4 roues, 2 roues, de toute façon, tout le monde est un peu dans le même paquet.
Ouais, dans le même esprit, je dirais.
Dans le même esprit, voilà, ouais, surtout. L'esprit de compétition. Donc maintenant, après, quand tu me vois réfléchir, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre que. Bon, cette histoire d'argent, pour moi, c'est inconcevable. Si t'es talentueux, tu devras avoir la chance comme tout le monde. Donc, je déteste l'injustice. C'est un truc qui me hérisse le poil au plus haut point. Donc là, si j'avais été, moi, dans la peau d'un mec qui était talentueux de la mort, mais que j'avais pas pu y accéder parce que j'avais pas d'argent, je me serais tiré une balle, en gros.
Bah, tu vois, par exemple, pour en revenir là, toi, sur la frustration d'où on parle.
Elle est réelle.
Oui, non, forcément, elle est réelle. Toi, par exemple, comme je te disais, bon, bah, je gagne Macao, je gagne Zandvoort, je fais deuxième du championnat d'Europe, je fais de la Formule 3, je finis troisième du championnat. J'ai eu un accès à faire un test en Formule 1 fin 2006, donc avec Spyker, la plus petite écurie. Et j'ai réussi à faire ce test-là parce qu'un sponsor a payé 200 000 dollars pour faire le test.
Okay.
Alors que Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Nelson Piquet, Scott Speed, des pilotes du même niveau que moi, on était aussi vite l'un que l'autre, eux ont fait des tests chez Williams, chez McLaren, dans des grosses écuries et sans apporter d'argent.
D'accord.
Donc c'est là où c'est vrai que c'est un petit peu dur à se dire, ok, d'accord, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a, avec quelle carte on va jouer sur table. Mais bon, le problème, c'est qu'à cette époque-là, ouais, c'est l'argent, il faut une grosse mallette pour y accéder.
Ok. Et donc, tu n'as pas pu y accéder? Qu'est-ce qui s'est passé
pour toi? Donc, j'ai fait un test en Formule 1 avec Spyker en 2006. J'ai fait un test à Silverstone qui s'est très bien passé. J'étais plus vite ou aussi vite que les pilotes titulaires de l'année. Même les ingénieurs, au bout d'une journée de test à Silverstone, ont regardé les acquisitions. Et donc, en fait, durant la journée, on a fait une centaine de tours. Et fur et à mesure des tours, ils font waouh.
Alex, il va bien.
Comment tu fais pour passer aussi vite dans ces virages lorsque, avec nos pilotes titulaires, ils n'arrivent pas à passer aussi vite? Je vous explique. J'ai parlé avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Dans les derniers jours, tout ça, ils m'ont dit que dans les Beckets, c'est un type de virage, donc c'est un enchaînement de virages où il y a 5-6 virages gauche-droite-droite-gauche, très rapide. Et en fait, ils m'ont toujours dit, nous, avec nos voitures, avec les McLaren, les Williams, qui étaient les voitures favoris à l'époque en 2005-2006, on ne freine pas. Donc pour moi, comme ils m'ont dit, ça ne freine pas, je suis parti dans l'esprit à rouler dans cette voiture en disant, pourquoi freiner ? Mm-hmm. Non, forcément. Mm-hmm. Et du coup, les gens, dont les ingénieurs, m'ont regardé en disant, waouh, ok, d'accord, bon, bah, c'est super. Mm-hmm. Donc, du coup, suite à cet essai-là, je suis parti à Shanghai, peut-être trois semaines après, pour être troisième pilote Spiker à Shanghai, qui s'est bien déroulé. Donc, en fin de compte, le troisième pilote, durant ces week-ends, faisait les deux séances d'essai pour faire un petit peu de développement sur la voiture.
D'accord.
Donc, ça veut dire développement boîte de vitesse, boîte, développement pneus, donc voir la dégradation des pneus sur 15 tours, pour essayer d'aider le team à avancer durant le week-end. Mmh. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient le droit de faire rouler trois voitures dans la même journée de test.
D'accord.
Aujourd'hui, okay. C'est que deux voitures. Okay. Donc, en fin de compte, les règlements changent tellement que c'est vrai, quand on reparle de tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu dur à comprendre. Mm-hmm. Les tests se sont très bien passés. Practice numéro 1 et 2, je crois que je finis 5e et 6e. Juste derrière Michael Schumacher, qui avait une Ferrari à l'époque. Moi, j'avais une Spyker, l'une des voitures les plus lentes du plateau.
Qui avait quoi comme motorisation, les vols
Ferrari, quand même.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Donc, un moteur V, c'était un V8 à l'époque. Donc, moteur qui faisait énormément de bruit, ouais. Les régimes moteurs qui montaient jusqu'à 18 000, 19 000 tours. Donc honnêtement, quand tu es dans la voiture, heureusement qu'on porte des bouchons, parce que sinon, on pourrait plus s'écouter. Mais bon, je dirais que le summum de rouler dans ces voitures-là, c'est vrai que c'est la Formule 1. Mm-hmm. C'est une voiture qui est collée par terre, il y a énormément d'aéro. Pour te dire, en termes d'aéro, une Formule 1, c'est équivalent à peu près 1800 à 2000 kilos de charge aérodynamique. Donc, okay. c'est la charge qui est retransmise du vent sur la voiture, sur tous les appendices aéro, l'aileron avant, l'aileron arrière, tous les appendices aussi du fond plat. Donc, c'est très, très, très technique. Ouais.
Et alors,
ça, honnêtement, ça en reste des bons souvenirs.
C'est magnifique. Ouais, enfin, qu'est-ce que ça donnait alors du coup ?
Qu'est-ce que ça donnait ? Les tests, comme je te disais, sont bien passés.
Mais
à la fin du test, donc quand je dis pas à la fin du test, ah. Donc, j'ai pu passer le week-end avec le team pour voir la course. Tout s'était bien passé, déroulé. Et deux semaines après, donc, on a fait un point, un débriefing de ce qui s'était passé. Et ils m'ont demandé, bon, bah, ok, on peut te faire rouler l'année prochaine, si tu veux, mais il faut apporter 10 millions de dollars. Mmh.
C'était le chiffre, ça ?
C'était plus ou moins les
tu
chiffres.
Tu dis pas un chiffre comme ça pour...
Non, je dis pas ça comme ça. Non,
c'était
non.
10 millions.
C'était 10 millions de dollars.
Ouais. Ok. Et ? Donc, tu as fait les fonds de tiroir.
Alors, à cette époque-là, ce qui est marrant, c'était, je ne sais pas si tu connais, Toto Wolff.
Pas du tout.
Christian Toto Wolff.
Non.
Donc, c'est le directeur de Mercedes F1 aujourd'hui.
Ok.
Qui fait gagner Mercedes depuis les 6 dernières années.
Je l'ai vu sur Netflix.
Voilà, exactement.
Toto, okay.
Toto, à cette époque-là, était mon manager.
D'accord, ok.
Donc, en fait, il avait différents pilotes qui suivaient, dont Bruno Spengler, pilote mm-hmm. aujourd'hui de DTM, Eric Salignon, plus d'autres pilotes, dont moi. Et à cette époque-là, donc, c'était lui qui m'aidait à monter les parcours et à trouver les budgets. Et après le test, donc, on a débriefé, il m'a dit, bon, voilà, Alex, si on veut continuer, il faut trouver 10 millions de dollars. Alors lui, il avait beaucoup de leviers, il connaissait énormément de personnes pour essayer.
Alors, avant que tu continues, 10 millions de dollars, ça correspondait à quoi exactement ?
À une saison complète de Formule 1.
D'accord.
Pour participer.
Mais eux, cet argent, ça faisait partie de quoi ? C'était que 5, 10, 20, 30% de leur budget, c'était quoi ?
Ah, 10 millions à l'époque, c'était... oui, ça doit faire peut-être...
Pour avoir une idée.
Honnêtement, en pourcentage, là comme ça... Là,
ouais, peut-être. Parce que ça me paraît énorme, moi.
Ouais, je sais.
Donc,
à l'époque, je dirais, ouais... Ça
je veux dire, si c'est 100 millions, c'est 10% du budget, déjà.
Ouais, ça devait faire peut-être entre 10 ou 20% du budget.
Ok.
Si tu as deux pilotes, ça fait, toi, entre 30-40.
D'accord.
Et après, eux, ils essayaient de retrouver des sponsors titres pour d'accord. le team.
D'accord, ok. Donc, je voulais juste une petite parenthèse. Ouais, je te laisse continuer.
Tu as raison. Et donc, on fait le débriefing avec Toto, on essaye de trouver un peu de l'argent, tout ça. Je ne sais plus, on avait peut-être trouvé 2-3 millions de dollars, dont d'euros, avec tous les sponsors, toutes les personnes qu'on connaissait, le network. Mais bon, forcément, on n'a pas pu trouver ces 10 millions. Donc, l'occasion a plus ou moins, on a perdu le contact avec le team. Et bon, je crois qu'ils ont trouvé, forcément, ils ont trouvé un pilote. Je ne me rappelle plus du pilote qui a roulé l'année d'après avec le team. Mais voilà, ça s'est fini comme ça. Et Toto, qui me manageait tout le temps, m'a trouvé un volant en DTM. Donc en 2007, en fait, Toto m'appelle, j'étais en vacances et il me dit « Tiens Alex, est-ce que ça te dit de faire du DTM ? J'ai un test à faire de DTM. » Je lui fais « Oui, pourquoi pas ?» Je lui dis « C'est vrai que là, on était parti sur la F1, le DTM à l'époque en 2005. »
Donc DTM, c'est championnat allemand ?
C'est ça, c'est un championnat allemand de tourisme qui est très gros, où il y a plusieurs constructeurs. Donc à l'époque, il y avait Mercedes et Audi. Et il me dit « Voilà, je peux te faire un test de DTM. » Et moi, dans mon idée, c'est vrai que le DTM, c'était plutôt un peu la transition, donc vraiment la fin de carrière d'un pilote de F1.
D'accord.
Donc c'est un peu dur à admettre, mais on est parti quand même faire le test. J'ai fait le test et j'ai signé avec Audi, parce que le test s'est super bien passé.
Mm-hmm. Mais la fin de carrière, mais en même temps, ça reste quand même ce que tu fais, c'est ta passion, c'est ton métier. Donc à la limite... je dirais pas peu importe, mais bon, après, quand tu sais que ce rêve de F1 est terminé, c'est quand même bien de trouver... non, je sais pas.
Ouais.
Je sais...
Non, entièrement d'accord, mais c'est vrai que dans l'objectif...
À ce moment-là, tu sais que la F1 s'est terminée.
La F1, plus ou moins, s'est terminée.
D'accord.
Après, l'optique, c'est vrai, quand tu commences à partir, à dire, voilà, je veux faire de la F1 ou de l'IndyCar, parce que je regardais aussi un petit peu de l'IndyCar, où j'étais venu quand même faire un test en 2006, à la fin de l'année, avec Eric Bachelard, mm-hmm. un team de Champ Car, qui s'était aussi très bien passé. Quand tu pars dans l'optique à faire du champ car ou de la F1 et que tu fais du DTM, aujourd'hui, le DTM, par exemple, on est dans des années qui sont complètement différentes, qui ont complètement changé.
D'accord.
En 2000-2005, je dirais que le DTM, c'était que pour les pilotes retraités de
retraités,
Formule 1.
Retraités, ok.
Exactement. Donc, c'était les pilotes qui avaient...
Jean Alési qui est...
Exactement,
Jean Alési. Moi, c'est le premier nom qui me vient quand tu... C'était
mais,
ça.
Mais même pourtant, si aujourd'hui, quand je dis 35-38 ans... Au final, moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Hein. J'ai 38 ans. Hein. Je me sens hyper jeune. Je me sens aussi jeune que quand j'avais 22 ans. Mais quand tu es jeune, quand tu as 22-23 ans et que tu vois la F1 et qu'à ce moment-là, le DTM, il n'y a que des pilotes de 35-38 ans, tu as l'impression que tu te dises « Bon, bah ok, bon, bah, c'est plus ou moins fini. » Mais c'est pas, forcément, comme tu dis, ce n'est pas fini parce que tu es dans un championnat de prestige, un championnat où il y a de renom, où il y a énormément de pilotes.
Et tu fais ce que tu aimes surtout.
Exactement. Tu fais ce que tu aimes. Ouais. Tu travailles pour un constructeur, tu peux pas rêver mieux, forcément.
Et tu gagnes de l'argent, enfin tu continues à...
Exactement.
D'accord.
Mais à ce moment-là, de cette époque-là, l'idée était un petit peu dure. Après, j'ai fait le test, ça s'est bien passé. Et la transition du DTM, quand je suis passé en DTM en 2007, il y avait de plus en plus de jeunes.
Mm-hmm.
Donc ça m'a pas, honnêtement, ça m'a pas dérangé. Mm-hmm. C'est pas pour ça que j'ai pas été... c'est pas pour ça que j'ai pas eu de succès en DTM.
Quand tu dis que c'est dur, ça veut dire que mentalement, psychologiquement, tu galères un peu. Tu
ouais,
dis,
bien sûr, mentalement.
Il y a quelques mois, tu dis je suis une merde, quoi,
ouais,
non
tout à fait. Ouais. Ouais, voilà. Ouais.
Il faut rebondir, il faut passer ça et se dire.
Faut avoir les pieds sur terre, avoir des bonnes personnes. J'avais mon
être
père,
bien entouré.
Ma famille, j'avais ma femme aussi qui était autour de moi, plusieurs personnes de s'entourer de bonnes personnes en disant non, on pense que c'est la bonne chose, il faut que tu y ailles. De toute manière, c'est un boulot comme un autre au final. C'est comme une personne qui va travailler à la chaîne ou qui est mécano. Et bon, bah, on est contractué par un constructeur ou par une écurie et il faut faire le boulot au mieux.
On n'a pas parlé de famille. Est-ce que tu viens d'une famille qui est déjà dans la course automobile?
Oui, tout à fait. Mon père, mon oncle, dont mes oncles, je dirais, ont tous été passionnés, que ce soit de moto, de camion, de voiture. Donc oui.
Donc c'est dans le sang alors, c'est pas arrivé par hasard.
Exactement, tout à fait.
Tu as des frères et sœurs?
Oui, j'ai une sœur.
Ok. Qui elle est fait complètement chose, c'est différent, j'imagine.
Complètement différent. Ouais. Alors, je dirais qu'on est les opposés. C'est marrant de parler de tout ça de ma petite sœur, dont même si elle est plus grande que moi, c'est l'aînée de 2 ans de plus. Elle a 40 ans. Je crois qu'elle va passer ses 40 ans cette année.
Je te trompe pas, hein, parce que si elle écoute, elle va t'en vouloir.
J'ai envoyé le podcast. Alors, ma sœur est plutôt écolo. Elle aime la nature, tout ça. Elle aime pas la pollution, les voitures, tout ça. C'est vraiment complètement vraiment différent de moi. Elle aime la nature, comme je disais, elle habite à Fontainebleau, dans une petite montagne où elle s'est construit sa maison. Elle a sa petite ruche avec ses abeilles. Elle a un fils qui s'appelle Valentin, qui fait de la motocross, qui adore ça. Mais moi, je suis plutôt ville. Je vais pas dire pollution, parce qu'en ce moment, je dirais que c'est pas le bon mot à dire.
Non. Donc la DTM, on revient un peu, on a fait un petit retour en arrière, c'est obligé que ce soit un retour, enfin bon bref.
Exactement.
La DTM, qu'est-ce que ça donne après ?
Le DTM, je fais 4 ans de DTM avec Audi, je gagne aucune course, malheureusement.
Ah.
Il y a beaucoup, donc honnêtement c'était une expérience vraiment extraordinaire de rouler pour Audi, un constructeur qui soit aussi gros. Avec Audi, j'ai fait les 24 Heures du Mans plus le DTM. Le DTM... C'est assez compliqué aussi en termes de championnat. Pourquoi ? En fait, des fois, j'essaye d'expliquer les choses, mais c'est tellement compliqué qu'on se rend pas compte. En fin de compte, de dehors, on voit un championnat, on voit des voitures qui tournent sur un circuit, on voit le résultat et en fait, on se pose pas la question. Mais le DTM, à l'époque...
C'est combien de courses et c'est où ?
C'est beaucoup en Allemagne. C'est 60% des courses en Allemagne, des courses en Espagne, des courses en Italie, des courses en Angleterre sur 10 week-ends.
Okay.
Donc 10 courses. Une course par week-end.
D'affilée. Non. 10 week-ends consécutifs ou non, pas du tout. D'accord.
10 week-ends sur 6 mois de l'année.
D'accord, donc, ok. Je te pose la question parce que nous, en cross,
oui,
c'est d'affilée, c'est d'un week-end sur l'autre.
Très bonne question. C'est
d'accord.
Ça commence mi-avril et ça finissait début octobre.
Ah oui, d'accord. Voilà, oui, voilà. C'est vachement étalé dans le temps.
Oui, exactement.
D'accord.
Durant la saison, entre les courses, on fait des tests, on fait du développement sur les voitures. Et on travaille forcément avec le team. Mmh.
Comment tu t'entraînes ? Parce que je sais qu'encore une fois, je fais des parallèles parce qu'on est quand même sur le bigusa.com, mais les pilotes de motocross roulent beaucoup, alors que vous roulez peu parce que tout est beaucoup plus cher. Comment tu t'entraînes finalement ? Comment si un pilote de cross roule tous les jours ou va à la gym, etc. La gym, ça fait partie aussi de ce que vous faites, mais techniquement sur le terrain, comment vous faites pour vous entraîner ? Parce que tout est plus cher du coup, tout est plus. Chaque heure d'entraînement coûte une fortune, j'imagine.
Eh bien, écoute, très bonne question. C'est vrai que physiquement, on s'entraîne comme tous les athlètes, donc énormément d'heures.
Du cardio,
de
l'endurance,
du vélo, de la muscu. Nous, c'est vrai qu'on est obligé de se renforcer la ceinture abdominale.
D'accord.
Parce qu'on efforce quand même beaucoup de pression sur le baquet. En bas du dos avec les jambes pour mettre beaucoup de pression sur la pédale de frein.
D'accord.
Et ensuite, tout ce qui est le haut du corps, les épaules, les bras, parce qu'en permanence, pendant une heure et demie, deux heures, trois heures, par exemple les 500 miles d'Indianapolis, c'est pendant trois heures et demie énormément de pression avec beaucoup de force, de G-force dans les virages. Donc physiquement, oui. Comme tu disais, le sport automobile coûte extrêmement cher par rapport à une moto. C'est vrai qu'il faut un camion, il faut un team de 5-6 personnes pour faire rouler une voiture.
Ouais. Tu peux pas partir avec ton camion et dire tiens, je vais aller rouler.
Non, exactement. Même de louer par exemple un circuit, ça coûte entre 10 000 à 30 000 sur une journée. Donc ce qu'il faut, c'est réunir plusieurs équipes pour faire du roulage. Donc je dirais les pilotes, dont la manière où en fait on s'entraîne, c'est plus mentalement, où on essaye de faire de la sophrologie. Essayer de se visualiser le circuit et de se préparer comme ça avant d'arriver sur un circuit.
D'accord.
Ce qui est complètement différent,
où
on ne peut pas vraiment s'entraîner. Alors après, oui, tu peux trouver des alternatives à faire du karting, à faire aujourd'hui du simulateur. Aujourd'hui, il y a du simulateur, il y a de plus en plus de côtés virtuels en ligne. Donc oui, ça aide énormément. Mais dans les années 2000-2010, ça n'existait pas. Donc c'était une approche... différentes.
C'est difficile parce que quand tu te retrouves dans la voiture, tu as des automatismes à avoir liés à cette voiture, au test que tu fais. Et si tu n'en fais pas énormément, ça doit être compliqué le jour de la course, non ?
Le jour du... Donc, nous, c'est vrai que ça ne se passe pas sur une journée.
D'accord.
Les courses automobiles, ça se passe relativement sur trois jours.
Ok.
Où la première journée d'essai, c'est le vendredi.
Ouais,
on a entre une heure et demie d'essai. Donc, c'est là où, en fin de compte, on peut se remettre un petit peu dans le bain, réapprendre la voiture, réapprendre le circuit, essayer de trouver un petit peu des setups. Donc, après ça, le soir, on peut débriefer avec notre ingénieur, on regarde les vidéos, on regarde les datas. après ce type d'information. Le soir, on fait un petit peu, comme je disais, de la sophrologie, où on essaie de refaire visuellement, de se mettre dans son lit, fermer les yeux. Moi, c'est ce que je faisais à un moment clé de ma période en GP2, DTM, où je me mettais allongé dans mon lit et je fermais les yeux, je prenais ma montre et boum, je commençais le chrono. Mmh. Et c'est là où, en fin de compte, j'essayais de me faire un tour complet du circuit avec les rapports.
Okay.
Les phases de freinage, les vibreurs, essayer d'avoir le plus d'informations possible du circuit. Et honnêtement, j'arrivais à une seconde du chrono que je faisais dans la vraie voiture. Et on était sur des tours en course ou des tours en qualif en 1 minute 30.
Wow.
Donc c'est vrai qu'il faut se lancer, faut se visualiser. Ouais, c'est quelque chose qui est très dur comme exercice. Mais honnêtement, ça te permet, quand tu remontes dans ta voiture, tu as l'impression que c'est des automatismes qui sont innés, en fait. Tu vois. Donc ça, c'était un plus. Ouais. Mm-hmm. Donc je dirais que côté mental, c'est de la manière dont travaillent tous les pilotes.
D'accord. Donc, même aujourd'hui, il y a ce côté qui est important mentalement, psychologiquement, de se mettre dans le... Parce que tu connais tous les virages par cœur, t'es capable de...
Ouais, et encore que je te dis pas tous les petits indices et tout, mais par exemple, toi, les... Comment j'ai le mot en anglais.
Là. Vas-y, dis en anglais.
A theme.
Ok.
Comment tu dis ça en français?
Un thème, hein. Non?
Non, pas un thème. Non. Tu sais, par exemple, t'as deux faces de goudron, en fait, qui se séparent.
Ok.
Un joint, en fait.
Un joint, d'accord. Ok.
Un joint sur... Toi, même des petits bouts de joint.
Ça, c'est important sur une piste.
C'est important.
Ah ouais?
Bah, pour voir des phases de freinage, par exemple.
Ok. Alors là, je suis sur le cul.
Ouais.
Un joint sur un... Mais c'est tout petit, ça.
Ah, quand je dis un joint...
Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais... Non.
Des fois, c'est vrai, quand ils refont les circuits, il y a des joints peut-être de 1 cm, mais ça te permet de te donner un point de référence de freinage.
D'accord.
Peut-être 1 mètre plus tôt, 1 mètre plus tard, ou 5 mètres plus tard, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fin de compte, t'essayes de trouver tous ces indices sur le circuit pour essayer de trouver cette recipe.
Cette recette. mais t'es ingénieur en plus d'être pilote, non?
Ouais.
Parce que après tu me parles de ça, mais après tu y es suspension, les pneus, tu me parlais de boîte de vitesse, etc. Enfin,
après, ce qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit, c'est que
il faut un bac S, non? Il faut un bac scientifique pour.
Ouais, non, mais faut comprendre les aspects. Mécanique, physique, un petit peu de la voiture, c'est sûr, pneu, d'un ressort, d'une barre anti-roulis, comment dire, des ailerons avant, des ailerons arrière, pour voir exactement ce que ça fait, ou la hauteur de caisse, les traînées.
Mais c'est marrant que tu me parles de ça, parce qu'il y a des pilotes de motocross qui sont connus pour, en testing, être nuls.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils sont incapables de retransmettre les informations aux ingénieurs pour dire, bah voilà, la moto, elle a besoin de faire ça, ça et ça. En voiture, c'est pas possible.
En voiture, non. Je dirais que si t'es pas...
Tu peux pas dire, oh, c'est bon, tu me fais chier avec ton
non,
testing.
Non, tu peux pas. Non, faut au moins avoir un bon ressenti. Ouais.
Après l'idée, c'est de pouvoir le transmettre. Ouais. Voilà, c'est ça qui est difficile.
Après,
du coup.
Si tu connais rien à la technique, tu dis, attendez, moi je conduis. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup.
T'es pas obligé de savoir démonter un moteur.
Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a des pilotes, hein, même en F1, qui roulent à la limite de la voiture, qui sont peut-être champions du monde ou vice-champions du monde, qui roulent et qui se disent, qui vont transmettre l'information à leur ingénieur en disant, bon voilà, moi la voiture en entrée de virage, elle s'ouvre.
Mm-hmm.
Ensuite, quand je mets un peu plus de volant, elle survire. Quand je reprends les gaz, ça me fait un coup dessus ou tout ça. Alors après, ça dépend des virages.
Bien sûr.
Il y a des virages haute vitesse, basse vitesse, moyenne vitesse. Donc tout ça, tu essaies de le transmettre à ton ingénieur. Et c'est, après... Comme je disais, c'est les constructeurs, c'est les teams qui engagent des ingénieurs. C'est aux ingénieurs de trouver les solutions.
Ouais.
Pour permettre.
Ouais, mais en même temps, s'ils savent pas là où il faut chercher, c'est difficile pour eux, non?
Bah non, je dirais qu'un bon pilote qui est rapide, imaginons qui est toujours devant, mais qui transmet la bonne information. Normalement, l'ingénieur doit dire OK, d'accord, bon bah je vais faire deux clics d'amortisseur en rebound, je vais baisser les pressions à l'arrière gauche, je vais mettre un peu plus d'aéro. Voilà, en fait, il va savoir plus ou moins ce qu'il faut faire pour le pilote. Mais après, il faut qu'il y ait aussi une alchimie entre l'ingénieur et le pilote. Je te dirais, demain, je vais rouler dans une nouvelle voiture, je ne connais pas l'ingénieur. Forcément, le dialogue que je vais avoir avec lui va être peut-être un peu plus froid, un peu plus direct, un peu plus strict que ce que je vais vouloir voir sur la voiture. Et lui, il va se dire, bon, qu'est-ce qu'il veut? Je ne comprends pas trop plus ou moins son message. Après, quand tu commences à comprendre et à passer du temps avec ton ingénieur au-delà de 4-5 jours de test, il connaît tes besoins. Et toi, tu connais tes besoins aussi de la voiture.
C'est pour ça que les crew chiefs sont super importants dans le sport automobile. C'est toujours les mêmes en fin de compte,
non ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est toujours les mêmes suivant les voitures. Ouais. Très, très important.
Waouh.
Ouais.
J'avais une question. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vegas. Le dénominateur commun, c'est Vegas.
Exactement.
Comment t'es arrivé à Vegas ?
On s'est rencontrés il y a 5 ans, Stéphane.
Mais toi, pourquoi Vegas ?
Pourquoi ? C'est marrant, petite anecdote, très sympa. En 2014, j'ai vécu 3 ans en Australie. Et dans mon voyage de retour pour la France, je fais un arrêt sur les États-Unis, où je vais voir un pote, Pierre Constantin, que tu connais bien, sur Los Angeles.
On lui dit bonjour d'ailleurs.
Ouais, salut Pierrot. Ouais.
Pierrot. Alors Pierrot, alors juste une petite parenthèse, est le sponsor de l'apéro Supercross US. Donc, on y pense maintenant qu'il y a plus de, enfin, il y a toujours plus de Supercross, mais ça me fait un coup de mou, tu vois, de penser à nos apéros. Merci Pierre. Donc voilà, donc
ça
Pierre.
Ça m'étonne de Pierre, parce que pourtant Pierre est ne
boit plus d'alcool. Il n'a jamais bu d'ailleurs.
et ensuite, la suite de la destination, c'était Vegas. Pourquoi ? Pareil, j'allais voir un ancien super pote avec qui j'ai fait du karting de la voiture, qui s'appelle Fred Jouet.
Ah,
je crois que tu as eu.
On a eu déjà, voilà, le podcast.
Et donc, on s'est tous vus ici. Je connaissais Romain aussi depuis longue date parce qu'on habitait dans la même région. Il habitait à Barbizon. Mes parents habitaient dans Arbonne-la-Forêt.
Tu parles de Romain ?
Romain Thiévin.
Thiévin,
exactement.
Okay. Donc, pour les gens qui ne savent pas, Romain Thiévin est le créateur de Exotic Racing. On en reparlera plus tard, bien sûr. Donc, je te laisse terminer. Je veux juste dire aux gens de quoi il s'agit.
Donc, on se fait un ou deux dîners sympathiques, tout ça. Je repars en France et 3 mois plus tard... Romain m'appelle en me disant « Tiens, Alex, j'ai un projet à faire sur les États-Unis. J'aimerais créer un championnat de course automobile avec des midgets. » Donc, je lui dis « Pourquoi pas ? Ok, il faut peut-être réfléchir. Regardons ce qui est possible, envisageable. » Et il revient vers moi peut-être une ou deux semaines. Il me dit « Tiens, prends un avion, viens sur Vegas. On en parle avec Fred Jouet et David Périssé. » David Périssé qui est
son associé, d'accord,
de Romain. Donc du coup, on s'assoit, on essaye de regarder des solutions et il dit « Bon, bah ok, allez, c'est parti, on le fait. » Ça, c'était février 2015. Entre-temps, j'étais encore en France, donc je commençais à travailler un petit peu sur le projet depuis la France.
Sportivement, t'en étais où à ce moment-là ?
Sportivement, je faisais du V8 supercar.
D'accord.
Encore en Australie, donc je faisais des courses d'endurance là-bas. Et je roulais aussi en blanc-pain en Europe.
D'accord.
Donc voilà, donc en fait, j'avais encore ces deux étiquettes. Mais pour moi, c'était vraiment la transition pilote à devoir travailler dans une écurie et essayer de monter un business model pour les États-Unis, sans connaître le marché américain qui était forcément délicat dans ces années-là. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe fin juillet 2015? Je déménage avec la famille sur Las Vegas pour créer le projet donc des IXA Series où on avait une fleet de 22 voitures et on a créé un championnat pendant 4 ans avec des gentlemen drivers, avec des jeunes pilotes. Donc honnêtement, un championnat qui était vraiment sympa avec des petites voitures midget, un châssis tubulaire, moteur Renault, 220 chevaux, des paddle shift. Un système de paddle shift, c'est un système de système automatique de passage au volant. Donc vraiment super. Et c'est là où, en fin de compte, de mon pourquoi, j'habite à Vegas.
D'accord. Qu'est-ce qu'il est devenu de ce championnat ?
Alors, ce championnat s'est fini fin 2019.
D'accord.
Romain et David ont décidé de vendre les voitures. À ce moment même, elles sont aux enchères. Donc, je crois que les enchères finissent demain. Donc, il y a plusieurs pilotes qui ont roulé dans cette série qui vont racheter des voitures, plus d'autres pilotes qu'on connaît ou des gentleman drivers qui habitent aux États-Unis.
D'accord. Donc, l'aventure XR Series, c'est terminé. T'as rebondi sur autre chose, c'est quoi maintenant Alex Prema,
oui,
à Las Vegas?
En fait, il y a deux ans, pendant le championnat d'XR Series avec Romain, je lui avais parlé d'une option de créer un team de GT4 et de TCR. Il était contre, donc suite à ça, je me suis mis à mon compte tout seul, où j'ai créé un team de course pour des gentleman drivers, parce que j'avais pas mal de demandes de nos pilotes. Du coup, en fait, j'ai monté cette structure à Las Vegas qui s'appelle le Team Prema, où aujourd'hui, on fait la maintenance, on fait la préparation des voitures. On a 6 voitures dans le shop et ça, c'est que le début.
Ok. Encore une fois, j'ai fait mon travail de journaliste et d'information. Un gentleman driver, c'est quoi ?
Un gentleman driver, alors c'est une personne qui n'est pas professionnelle du sport automobile, une personne, je dirais, qui veut rouler dans un sport accessible. Je dirais que c'est toujours délicat à dire, c'est dans ses moyens. Donc, c'est vrai que le mot est un petit peu compliqué, gentleman driver, parce que tu as des gentleman drivers qui ont 25 ans et tu as des gentleman drivers qui ont 50 ans, 60 ans. Donc, je dirais que c'est plus ou moins une personne qui fait ça pour son plaisir.
Le raccourci, c'est j'ai de l'argent, je veux rouler et toi tu me donnes tout clé en main.
Exactement.
Voilà.
C'est ça.
C'est ça. C'est le plus simple.
Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord.
Ok. Argent à 25 ans ou 50 ans, il faut un peu d'argent et puis il faut aimer ça et puis il faut se dire. C'est compliqué de dire voilà, moi j'ai de l'argent, mais je veux rouler, mais je vais où, je fais quoi.
Donc, ouais, exactement. Même nous aujourd'hui, on a des pilotes qui ont 30 ans. Bon, bah, c'est vrai que je les appelle pas gentleman driver. C'est vrai que gentleman driver, c'est vraiment un peu. Un mot qui est assez difficile à entreprendre, que ce soit pour une jeune personne ou même pour une vieille personne. Donc on dit, ouais, voilà, nos pilotes, nos clients, plus ou moins. C'est vrai qu'on ne parle pas trop de gentleman driver.
La crise de coronavirus, Las Vegas fermée depuis le 17 mars, les casinos, les hôtels, etc. On est en confinement, enfin un light confinement par rapport à ce que les gens connaissent en France. Qu'est-ce que ça t'a impacté, j'imagine?
Oui, énormément. Ça a impacté énormément le business model du motorsport aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que tous les événements ont été annulés. On avait des événements qui devaient avoir lieu au mois de mars, avril, même mai. Aujourd'hui, on est le 5 ou 6 mai. On est le combien déjà ?
On est Cinco de Mayo.
D'accord, c'est vrai.
C'est le 5 mai.
Du coup, oui, ça a arrêté. Complètement l'activité, donc vraiment très dur. En ce qui me concerne, le team survit. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu de frais. Tous les équipements ont été payés sur les 2 dernières années. Le seul truc, c'est qu'on doit payer le building. On essaie toujours de trouver des points clés pour nos clients, à trouver des nouveaux marchés, des nouveaux systèmes leviers pour essayer de travailler sur les voitures durant cette crise, ce qu'on a fait, je dirais, sur les 8 dernières semaines. Donc ça nous a ramené un petit peu de rentrée d'argent, heureusement, mais là, c'est vrai qu'il va falloir recommencer. Alors, le gouverneur de Californie et du Nevada ont décrété, je crois, hier, comme quoi on pouvait rerouler sur nos circuits automobiles à partir de vendredi. Donc là, on va essayer de recontacter un petit peu tous notre type de clients pour essayer de refaire marcher le business. Mais c'est vrai qu'on a été très impacté et très, très dur.
Cette après-carrière de sportif, tu l'apprécies autant ? C'est peut-être une question un peu débile, mais est-ce que ce que tu fais maintenant, tu l'apprécies autant que ce que tu faisais avant ? Mais je pense que je connais presque la réponse, à vrai dire.
Je l'apprécie différemment.
Parce que c'est différent, j'allais dire.
Je l'apprécie différemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le challenge est complètement différent. Là, j'essaye de retransmettre tout mon acquis à mes clients.
Tu sais bien le faire, ça ? Tu y arrives ?
Ouais, j'arrive bien.
Parce qu'encore une fois, c'est difficile. Tu peux être très bon pilote et pas savoir le...
Ouais, le côté pédagogique est toujours compliqué à retransmettre. Mais Aujourd'hui, ça se passe plutôt pas trop mal avec tous nos clients. Ils sont tous contents. À côté de ça, toi, j'essaie aussi de réinventer le team, à faire des courses de simulation en virtuel. Depuis 3 semaines, tous les pilotes sont à fond dedans. Et ça permet de garder l'adrénaline des pilotes, ce qui est le plus important.
Est-ce que tu peux faire un âne, un cheval de course en course automobile ?
Non, mais tu peux lui donner une bonne recette pour qu'il soit meilleur pilote.
Ok.
Le problème, c'est que tout dépend des individus. Chaque individu est vraiment différent. Ça dépend si c'était une personne qui a déjà été un petit peu sportif avant d'avoir commencé le sport automobile.
Ok.
Si c'est une personne âgée.
Ok.
Donc il y a quand même beaucoup de facteurs qui comptent, okay. qui rentrent là-dedans.
Bon, alors on va faire un jeu alors.
Tu vois ce que je veux dire ?
J'ai 30 ans.
Ouais.
J'ai 500 millions sur mon compte. Mm. Je suis une bite en voiture, mais j'ai l'impression que je peux être Ayrton Senna.
D'accord.
J'ai un budget limité. Qu'est-ce que tu peux faire avec moi ? Est-ce que je peux devenir bon ? Ou je vais rester une merde quand même ?
À 500 millions, tu viens vers moi à 500 millions, je te dirais que tu seras le meilleur.
Non, mais ma question, c'est je peux acheter mon talent ? Encore une fois, on a un débat en cross avec David Villemain, que tu connais peut-être de nom,
oui, bien sûr.
Qui dit que le talent n'existe pas. T'en es où, toi, avec ça ?
Je suis d'accord avec lui. Disons.
Donc, j'ai 30 ans, j'ai 500 millions, je suis une bite, mais même en simulateur, je mets tout dans le mur. Je viens vers toi et je dis je veux être champion. Bon, tu vas prendre le marché, tu vas te laisser embaucher.
Ouais, c'est clair.
Mais est-ce que tu vas réussir à faire de moi une bête de course ?
Bah après, ça dépend. Est-ce que t'as peur ? Est-ce que t'as peur de la vitesse ?
Bien sûr, j'ai peur. J'ai peur de tout. Ouais. Mais voilà, c'est mon rêve. Je veux gagner des courses.
Bah, envoie-moi déjà le premier virement et on essaye. On fait une journée test et je te dirai après la première journée test. Alors, je sais que c'est une question très compliquée. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je suis entièrement d'accord avec David. Le talent n'existe pas. C'est vrai que quand j'étais jeune, des fois, j'entendais des... Oh là là, cette personne, c'est un alien. Tu sais, c'est genre.
Un extraterrestre.
Un extraterrestre. Ouais. Il sort. D'où est-ce qu'il sort ? Il fait des choses que. Ouais. Oui, peut-être il a un talent qui est énorme. Okay. Mais est-ce qu'il va travailler pour être meilleur que son talent ? Lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas de talent, mais qui vont travailler pour au final avoir un talent.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Ouais, je vois ce que tu vas dire.
Il y a des pilotes comme ça. Moi, je sais qu'il y a des pilotes.
Donc tu crois quand même au talent, puisque tu parles.
Ouais, mais ça,
du mec qui arrive et qui fait des choses que l'autre ne fait pas.
Ouais, mais je pense
ou il le fait naturellement.
Oui, mais je pense qu'il y a des cas à part. Toi, okay. Par exemple, je ne sais pas, en moto, Valentino Rossi, en Formule 1, par exemple, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, en motocross, McGrath, par exemple. Tu vois, je pense que c'est des gens clés qui ont été... supérieurs dans leur discipline ou dans leur sport, où je pense qu'ils ont quand même quelque chose de différent des autres concurrents.
Donc on est d'accord que c'est une question de vocabulaire alors.
Ouais.
Quelque chose de différent, c'est pas forcément avoir du talent alors.
Non, mais je pense qu'il y a des pilotes.
Qu'est-ce qui fait que tu freines toi tu vas freiner tard et moi je vais mon cerveau va me dire mais t'es fou, tu vas te tuer. C'est pas un talent ça non, c'est du travail.
C'est du travail. Ouais. C'est du travail. Après, c'est.
Donc, ça revient à mon mec, t'as 30 ans avec mes 500 millions. Il ne sait pas freiner tard, il a peur. Tu vas réussir.
J'ai eu à apprendre à freiner tard.
Ouais. Ah ouais. Ok.
Aujourd'hui, on a des gentleman drivers. Ça fait 2 ans que je travaille avec un pilote qui s'appelle Steven Vada, qui avait très peu d'expérience en course automobile. Il faisait que du karting. Il est monté dans la voiture. L'année dernière, il roulait peut-être à 3 secondes de moi. Cette année, on a fait une course à Daytona. On aurait dû gagner la course. Malheureusement, on s'est fait sortir. Mais il roulait à 4 dixièmes de moi.
D'accord.
Et il a 45 ans.
OK.
Alors aujourd'hui...
Ouais, mais l'âge, tu m'as dit que c'était pas...
Ouais, ouais. Mais après, je dirais que la voiture, c'est complètement différent encore une fois de plus de la moto. On a une traction control, donc un système qui nous permet de pas que la voiture parte pas en crabe. On a de l'ABS, donc forcément, imaginons, je te dis, Stéphane, tu prends la voiture, tu freines à 100 et confiance, tu freineras à 100, la voiture va s'arrêter, tu vas prendre le virage.
Ouais.
Après, ce qu'il va falloir faire, c'est le dégressif. Le dégressif, c'est quand tu tapes la pédale de frein, quand tu commences à relâcher pour essayer de garder la plateforme de la voiture en bas pour qu'elle puisse pivoter. Alors après ça, oui, forcément, tu vas peut-être avoir un petit peu du mal à moduler cette phase où moi, je suis très expert et je vais arriver à le faire dès le premier tour. Mais quand je vais te dire, tu vas freiner à ce virage-là, à 100, tu vas pouvoir freiner parce que de toute manière, l'ABS, c'est lui qui contrôle et qui fait que tu n'auras pas de blocage de roue.
Ok, donc j'ai une question quand même. Il y a quelques années, enfin une dizaine d'années, Sébastien Tortilli, pilote de cross, ok, on est chez lui, on ouvre un jeu vidéo, c'était Dirt, un truc de rallye.
D'accord, ouais, okay. Ouais, Dirt. Ouais, ouais.
On ouvre le truc, on déballe le jeu, on met le jeu, il n'a pas joué, j'ai pas joué. Au bout d'une heure, il était plus fort que moi.
D'accord.
Comment c'est possible?
Je pense qu'il doit avoir une meilleure...
Donc il n'y a pas de talent là. On commence pareil.
Oui, non, mais je suis d'accord.
On commence pareil.
Oui,
sauf
jeu.
Que lui, il est champion de motocross. Moi, je suis que journaliste, entre guillemets. Il a quand même des notions de trajectoire, des notions de freinage que moi, j'ai pas.
Non, je suis entièrement d'accord.
Donc là, c'était lié à son expérience? Parce qu'il n'y a pas de talent dans le jeu vidéo.
Oui, mais bien sûr. Là, c'est lié.
Je me souviens d'avoir joué. C'était. Ok, on fait un tour. Le meilleur temps, et après c'est le deuxième joue jusqu'à qu'il il bat le temps dessus. Mais j'ai joué toute la nuit, lui il a été se coucher.
non, mais là oui, forcément, là, c'est entièrement suite à son expérience.
D'accord.
Il sait où est-ce qu'il faut, donc, je ne vais pas dire freiner, mais il connaît mieux les trajectoires, il sait que quand il faut remettre les gaz, par exemple même sur un simulateur aujourd'hui, quand je te parle du Virtual Simulator, quand je joue avec tous mes pilotes, ou même avec Tristan Vautier, je joue même avec des pilotes pro et tout dedans, quand tu roules dedans, faut ouvrir, quand tu remets les gaz, il faut ouvrir le volant. Parce que si tu gardes le volant fermé, tu sais que la voiture elle va être plus dure à emmener. Bon, tous ces petits trucs que tu connais de base, ça c'est des notions, c'est de l'expérience. Et oui, même sur un jeu vidéo, bah oui, il sera plus fort. Ou à part vraiment si tu connais bien les trajectoires sur le jeu vidéo.
Mmh. Ok. La transition sur le jeu vidéo, on en a parlé un peu tout à l'heure. Ça le fait aussi en cross. Hein. Beaucoup de gens jouent sur Supercross live, enfin jeux vidéo de Supercross, etc. En voiture aussi, on le voit énormément. En MotoGP, ils font même des courses maintenant.
Oui, j'ai vu ça, c'est génial.
est-ce que sur en vidéo, c'est pareil? T'as pas la même sensation, mais les jeux sont tellement précis maintenant que tu peux réussir à trouver les mêmes sensations? Ou pas?
Je dirais que l'émotion n'est pas là.
Okay.
Les sensations.
T'as pas le vent,
Les sensations, par exemple, en termes de.
Enfin, le vent pour les monoplaces. Hein,
ouais, pour les monoplaces. Ouais. Mais pour nous, pour les pilotes qui sont assis dans des voitures, je pense qu'en moto, c'est complètement différent. Parce que nous, on émet beaucoup plus de G-force en latéral. Mm-hmm. Nous, on ressent tout sur les hanches.
D'accord.
Donc, en fait, quand on est posé dans le baquet, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un bon baquet qui soit vraiment bien moulé à notre corps, où la voiture, quand imaginons je tourne à gauche, bah normalement je devrais sentir un point plus fort sur ma hanche de droite. Tu vois ce que je veux dire?
Okay.
Donc tout ça, en fait, ça c'est des points qui sont très importants dans une vraie voiture de course. En virtuel, ça tu ne l'as pas. Donc en virtuel, c'est quoi? C'est le visuel, c'est le ressenti volant effort. Et aussi le ressenti pédale. T'as que vraiment ces trois points clés.
Ok. Et tu ne retrouves pas donc.
Tu ne peux pas tout retrouver. Alors après, t'as quand même le challenge en soi où t'as le chrono. Donc il y a le chrono qui te permet de te pousser. Ou imaginons, t'as un autre pilote qui roule avec toi. T'as toujours envie de faire mieux que lui. Donc tu vas aller freiner plus tard, tu vas freiner plus tôt, tu vas emmener plus de vitesse de passage, mais tu vas essayer d'aller trouver ta trajectoire parfaite.
Est-ce que ça enlève le côté... Il y a quand même le côté challenge sur un virtuel, quand tu
ouais,
dis...
Ouais, énormément. Honnêtement...
Parce que tu peux te dire, oh, c'est bon, je vais me mettre dans le mur, il ne va rien se passer, je vais aller... Je repousse mes limites de freinage...
Non, c'est pas le but.
Pas forcément.
C'est pas le but, parce que sinon tu vas mettre la caisse à chaque fois dans le mur, tu vas essayer jusqu'à ce que tu puisses pas rouler. En fait, sur le simulateur, tu vas essayer de comprendre de pouvoir rouler à la limite, comme une vraie voiture, et d'aller chercher les derniers dixièmes. Au final, d'être compétiteur dans l'âme, c'est d'être le meilleur et c'est d'aller chercher les derniers dixièmes. Mmh. Et c'est ce qu'on cherche tous.
Okay. Et là, combien de fois par ce... enfin, vous vous retrouvez quand pour faire ces jeux-là ?
Là, maintenant, avec le team, on a créé un groupe où on est à peu près 35 pilotes à rouler D'accord. dessus. Donc, une course virtuelle aujourd'hui qui sera en live sur YouTube et Facebook.
D'accord.
Donc, si tu veux, tu pourras suivre la course depuis ton ordinateur. On fait ça tous les mardis soirs à 7h30 Eastern Time, donc à 4h30 heure Vegas. C'est marrant, mais pour te dire... Le virtuel, on se retrouve donc à Sebring, un circuit qui est en Floride, avec des pilotes qui sont en Australie, des pilotes qui sont à Vegas, à Los Angeles, des pilotes qui sont à Dallas, des pilotes qui sont à New York. Je trouve ça extraordinaire.
et c'est marrant que tu arrives à trouver les mêmes... Enfin, on parlait de sensations, mais il y a quand même... Tu as envie de gagner, quoi. Peu importe si c'est devant un ordinateur ou en vrai, l'idée, c'est de...
C'est de gagner. C'est d'être devant, d'être le plus vite, montrer que c'est juste pour ton ego de dire bon, bah, ok, ça va, c'est bien.
Ça t'inquiète, ce coronavirus là, pour le business et compagnie? T'es dans quel état d'esprit en ce moment?
Ouais, c'est toujours délicat, que ça soit pour la vie de tous les jours, que ça soit pour le business, que ça soit pour le tourisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on est confiné chez soi, ou quand même à aller un petit peu au bureau, parce que c'est vrai que les restrictions sont quand même un petit peu moins fortes qu'en France, à Las Vegas. Mais oui, honnêtement, ça concerne énormément de gens, énormément de compagnies. Je pense que ça va mettre du temps à se relever, même si il y a des gens qui sont derrière, il y a le gouvernement qui va nous aider, dont, en quelque sorte, plus ou moins. Il y a des sponsors, mais bon, non, je pense que... Je ne sais pas, j'ai du mal à évaluer dans le long terme comment ça va se passer les 12 prochains mois. Donc, il va falloir se réinventer, trouver des solutions et réfléchir surtout à ne pas dépenser d'argent.
Le team Préma pourrait être n'importe où maintenant. T'es à Vegas, mais tu pourrais décider d'être...
Ouais, tout à fait. Ouais, je pourrais être partout. Sur la...
Et tu veux bouger? T'as envie? C'est quoi tes plans d'avenir?
Non, bah, team Préma, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec mon nom, je suis reconnu un petit peu internationalement. Donc, ça veut dire que je pourrais aller en Australie, je pourrais aller aux États-Unis, je pourrais aller en France, je pourrais exercer mon travail partout. Je dirais que les États-Unis, c'est une... C'est un bon continent. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même de l'argent. C'est un peu plus facile d'y arriver qu'en Europe ou même en Australie, où le marché est quand même très, très petit. J'aimerais bien quand même... aujourd'hui, c'est vraiment une évolution du team où aujourd'hui, on est une petite structure où on fait du TCR, on fait du GT4 et aussi un petit peu de LMP3. L'idée, c'est de monter en gamme et de faire des courses comme les 24 heures de Daytona, des grosses courses qui sont beaucoup plus prestigieuses. Je ne dirais pas que ce sera l'année prochaine, mais dans les 3-4 années prochaines, essayer d'apprendre un petit peu mieux le métier, mieux les sponsors et de pousser là-dedans. Mmh.
Les acronymes, là, il faut arrêter là, en course automobile. NBR, TCR, MP3.
C'est un peu compliqué. GT3, GT4, encore ça va. Je sais. Ouais.
Hein, non, c'est pas possible.
C'est compliqué. On ne sait pas pourquoi.
Supercross, 4,5, 2,5, 2,5, 4,5.
Ah, je suis complètement d'accord. Sauf qu'en fond, c'est vrai qu'en... En automobile, c'est vrai qu'il y a les monoplaces, il y a les voitures tourisme. C'est vrai qu'il y en a beaucoup trop. La FIA voudrait réussir à réguler tous ces types de classifications dans chaque catégorie, parce que c'est vrai que c'est compliqué à avoir. Et là, on parle de TCR, hein, mais avant, c'était LMP1, LMP2. GT1, GT2, ça change en permanence. Tous les 5 ans, il y a un nouveau nom de championnat ou un nouveau nom de voiture.
Ok.
Très compliqué.
Ok.
Ouais, donc désolé, ça va être dur à faire. Peut-être en 2040, ouais, ça sera peut-être régulé, mais pas avant.
On va arrêter là ce podcast. Je sais que tu es très occupé aujourd'hui, puisque tu as des testings à faire. Tu as un testing à faire, puisque c'est la course aujourd'hui, on est mardi.
Exactement, ouais, je vais aller m'entraîner à la maison. Donc il faut que je fasse tout le setup de la course virtuelle.
Deux choses avant de terminer ce podcast. Première chose, on m'en a beaucoup voulu cette année quand à Anaheim, j'ai filmé Mathilde Musquin. J'ai fait une interview de Mathilde Musquin, de la femme de Marvin Musquin, alors qu'elle était à côté de d'un pilote de F1. Donc je me suis
Pierre Gasly.
Voilà. Je l'ai pas reconnu.
Moi, ça peut arriver.
Je ne l'ai pas reconnu. Bah, oui, je ne suis pas passionné tant que ça et machin. Et on m'en a beaucoup voulu.
Ah, vraiment?
Ouais. Parce que, ouais, Stéphane, putain, dommage, tu déconnes. Tu t'interviews Mathilde Musquin, Pierre Gassi à côté, tu ne demandes pas ce qu'il pense du Supercross ou que ce soit. J'étais un abruti ce soir-là ou...
Non, je pense pas. Non, non,
Pierre Gasly, c'est...
Non, mais c'est... Pierre Gasly, c'est...
Je veux pas dénaturer quoi que ce soit, mais...
C'est un futur champion, c'est un pilote français qui est extrêmement bon en Formule 1, qui roule avec Toro Rosso. Donc aujourd'hui, on a nos trois Français, dont Charles Leclerc, qui est français monégasque, Romain Grosjean et Pierre Gasly. Pierre est un très bon pilote. Après, que tu le reconnaisses pas,
bon,
ou
ça
tu
va,
poses
alors
pas la question,
tu me rassures.
C'est pas très grave, honnêtement. Okay. Moi, il y aurait eu un pilote moto. Ou,
t'aurais fait la même.
J'aurais fait exactement
d'accord
la même.
Ouais, okay.
Et pardonné.
Merci, c'est gentil. Mais je voulais parler d'un truc qui est vraiment top. Cette émission sur Netflix, on en a parlé rapidement. C'est comment Drive
Drive to Survive.
Ouais, j'ai vu le premier était mortel.
De la saison 1.
Génial. Un peu déçu de la saison 2, non?
La saison 1 est vraiment extraordinaire.
Extraordinaire, parce qu'on est carrément dedans. Et puis, une fois, mais il y a des pilotes, encore une fois, je connais pas bien, mais des mecs, j'ai découvert des pilotes, ils sont mortels, ces gens-là.
Ah, c'est canon.
La
saison 1.
Et d'un coup, la deuxième saison, j'ai l'impression que les gens attendaient et puis que c'était pas la même.
Mais pourquoi tu t'es posé la question?
Non.
Déjà, parce que tu connais déjà les pilotes.
Ok.
Donc tu t'attends un petit peu ce qui va se passer.
Ricardo, extraordinaire, Ricardo.
Oui, mais la première saison, tu dis l'extraordinaire, la deuxième année, tu sais comme il est déjà.
Ouais, exact.
Donc t'as plus le côté surprise.
Ouais, mais j'ai l'impression que eux savaient aussi maintenant à quoi s'attendre et peut-être disaient pas les mêmes choses que la première saison parce que j'ai l'impression que la première saison ils se sont fait un peu surprendre, non?
Je suis entièrement d'accord.
Et la deuxième, il dit attends. Mais ça se voit bien parce que dans le teaser, quand il dit oh, ouais, fucking. Tu vois.
Mais après aussi, c'est que la deuxième saison, déjà, ils suivaient beaucoup plus de pilotes.
D'accord.
Donc plus de teams. Donc tu avais un fil rouge conducteur, mais qui était quand même moins fort que le premier.
Ouais, voilà. Parce moi, que ça s'est plus sur.
Exactement. Je pense qu'ils auraient dû faire la saison 2, mais au moins avec peut-être 16 épisodes pour essayer de suivre un peu plus à l'intérieur les pilotes. La saison 2, là, par exemple, l'histoire de Grosjean avec Gunther, je sais pas, tu l'as pas vu, non?
Si, j'ai vu toute la saison.
L'épisode 2, il est extraordinaire. Ouais. Là, tu vois Haas vraiment comment ça l'est. Là, je dirais que c'est vraiment que le seul épisode de la saison 2 qui est vraiment prenant.
C'est bien fait quand même, non?
Ah, c'est génial. Ouais. Honnêtement, moi qui connais le sport automobile, je connais la Formule 1, parce que je vais quand même souvent dans les paddocks de F1. C'est réel. Et ce que j'ai bien aimé dans cette série-là, c'est qu'honnêtement, ils ont des choses que je ne pensais pas qu'ils allaient avoir.
Ah
parce
que
tu as du feedback quand même des pilotes comme Horner qui va voir Max Verstappen à Monaco quand Ricardo avait gagné la course. Il dit voilà, va voir Ricardo, tu lui dis félicitations, bravo, blablabla. Mais tu ne peux pas être frustré comme ça. Toi, des éléments de vidéos comme ça, je pensais pas qu'ils auraient pu avoir ça.
Ouais. Donc t'as été étonné par ça quand même.
Étonné,
parce que ça, c'est un milieu vachement
qui est très fermé.
Prout quand même, c'est un peu machin.
Pas
attention.
Fais
attention à ce qu'on dit. C'est vachement policé, non?
Ouais, c'est quand même policé.
Moi ça m'a surpris justement de voir des choses et dit putain les mecs.
Ça l'est, ils se lâchent. Alors heureusement que t'as des personnages comme Lewis Hamilton, Alonso, Max Verstappen, Ricardo. Qui se lâchent et qui disent les choses. Mais je dirais que la F1, au final, c'est une bulle.
Okay.
Quand tu rentres dedans, moi, par exemple, je ne vais pas y aller pendant 2 ans, je vais y retourner, ou même les 10 dernières années, tu retournes dans le paddock, c'est toujours les mêmes personnes. Tu revois toujours les mêmes personnes, tu repasses dans le paddock, ah, salut, Alex, ça. C'est vraiment une bulle. Donc, c'est vrai qu'il faut faire quand même attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. À l'égard d'autres personnes.
Ok. Bon, si vous n'avez pas vu cette série, il y a 2 saisons, Drive to Survive sur Netflix, toujours disponible. Merci Alex. C'est grâce à un abonné qu'on fait ce podcast.
Exactement.
Alors c'est pas. Alors, pourtant on se connaît, mais c'est vrai que avec le confinement, j'essaye de trouver des idées différentes selon les podcasts. Et c'est Nono, Arnaud.
Ouais, Arnaud, Nono, salut Nono, petite dédicace pour Nono. Nono, alors on va en revenir là-dessus, mais bah, Nono m'a aidé à gagner les Masters Zandvoort, Macao, vice-champion de Formule 3. Donc ça a été un super bon mécano, hyper attentionné la préparation de la voiture, attentionné aussi à moi, de savoir comment j'allais dans tous mes états durant les week-ends. Il était là. J'avais même mon préparateur physique qui s'appelait Guy Jeannodet, parce qui est décédé d'un cancer. Et je m'en rappelle de très très bons souvenirs avec Guy, avec Nono. Et c'est un plaisir de voir que Nono puisse te suivre sur le Big USA et que c'est un fan de motocross. C'est
voilà.
Ça qui est top. Ouais.
Donc Arnaud a posé une question sur la hotline et a dit tu feras un petit coucou à Alex Prébin. Et là, je lui dis tiens, Alex, bon client pour un podcast en mode confinement. On essaie de faire des podcasts. Tu parlais de Fred Joé. On a eu aussi Romain Cornu, Vince dans l'immobilier, des choses un peu différentes pour que vous puissiez apprendre des choses durant ce confinement, c'est important. Merci beaucoup Alex d'avoir été mon invité sur le numéro 92. La semaine prochaine, on va tenter encore quelque chose de nouveau. On va faire un podcast avec avec Julie, qui est donc dealer de poker au Bellagio. Donc encore un truc un peu différent, de façon à que vous ouvrir vos esprits, vos horizons. Il n'y a pas autre chose, il y a quand même autre chose que le motocross dans la vie. Merci beaucoup Alex de ta patience,
merci
d'avoir fait ce podcast. Le bonjour chez toi, bon courage pour la course cet après-midi, enfin ce soir. Tu nous diras si on verra si tu as gagné ou pas. Hein.
Ouais, ça va être dur, je pense.
À bientôt. À bientôt, merci à tous. Vous avez écouté ce podcast, vous êtes abonnés ou pas pendant le confinement. On profite d'ouvrir le site un peu plus à ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, profitez-en parce que quand ça va reprendre, cette fois, il va falloir s'abonner. Hein. Donc, je suis désolé, mais je suis obligé de vous prévenir. Bon, allez, sur ce, à bientôt. Ciao, Alex.
Salut.